On va être en direct avec Alain Deneau, auteur du livre Noir Canada, livre qui faisait les liens entre les compagnies multinationales, le gouvernement du Canada et l'exploitation qui se fait de façon tout à fait éhontée en Afrique. Alors, Alain Deneau, bonjour.
Bonjour.
Alors, demain matin, vers 11h, il y a tout un événement qui se passe en face du palais de justice par rapport à la loi anti-SLAPP, loi qui sert à bâillonner justement les gens qui dénoncent certaines choses injustes que font les compagnies. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu rapidement de ce qui s'est passé premièrement par rapport au SLAPP, par rapport à vos accusations que vous avez eues qui ont été faites par la Barrick Gold sur votre livre, puis ensuite nous parler de l'événement de demain?
Oui, en fait, on peut faire une histoire trop courte qui rendra pas justice à tous les acteurs, mais reste que Éco-Société et les auteurs de Noir Canada, Delphine Abadie, William Sachio, moi-même, avons reçu d'abord une mise en demeure assez intimidante et ensuite une poursuite en bonne et due forme pour 6 millions de dollars en 2008 pour avoir fait paraître Noir Canada, un livre qui fait état d'une documentation pléthorique sur le rôle controversé de multinationales canadiennes, notamment des minières en Afrique, mais ça aurait pu être en fond sur l'Amérique latine et sur bien des pays du Sud. Et des juristes notamment et des acteurs de la société civile, à commencer par nous-mêmes, avons qualifié de poursuite bâillon ce type de méthode qui consiste à traîner devant les tribunaux des gens qui ont en quelque sorte simplement participé à la chose publique en débattant à partir de données qui existent et d'analyses de leur cru, ainsi de suite. Quoi. Nous, ce qu'on a fait paraître, comme on le sait, ce sont des comptes rendus de dépôt positions faites au Congrès à Washington ou des rapports de l'ONU, ainsi de suite, ainsi que des rapports d'organisations civiques tout à fait réputées d'africanisme, où on connaît l'histoire. Et nous, on a bénéficié, en fait, du fait que des écologistes avant nous s'étaient mobilisés pour faire valoir cette notion de poursuite bâillon, parce que du moment qu'un acteur puissant veut faire taire des citoyens qui souhaitent se positionner sur un enjeu quelconque, environnemental, social, politique, ainsi de suite. Il a beau jeu de le faire parce que il sait qu'en entamant une poursuite judiciaire, il est à même de faire en sorte que la procédure soit un châtiment pour ceux qui y sont soumis. Pourquoi? Parce que dans notre juridiction, il est rare qu'on ait les moyens de se défendre en justice et donc être poursuivi, c'est déjà un châtiment. C'était l'idée derrière cette critique, quoi, savoir qu'il fallait rendre public au moins cette notion et à partir de là amener le législateur à adopter une loi, ce qu'il a fait après notre cas, là, Noir Canada, après que nous ayons nous reçu nos visites de huissier, quoi. Il y a eu cette mesure votée par le Parlement dans les mois qui ont suivi pour faire en sorte que les citoyens qui se jugent victimes de poursuites bâillon puissent s'adresser à un juge et faire état du problème, quoi. Et demain, il y aura donc devant le palais de justice à 11h une annonce que je dois encore réserver, mais que nous ferons à 11h pour à la suite de tous ces événements.
Ça fait plusieurs personnes au Québec qui se font frapper en fait par cette loi bâillon-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents groupes qui ont été touchés par cette stratégie-là?
Bien évidemment, la QLPA, à laquelle on pense, une association dédiée à la pollution atmosphérique, à cet enjeu, et qui s'est retrouvée poursuivie et rudement éprouvée par le fait d'avoir dû se défendre devant les tribunaux, d'avoir dû payer des avocats, d'avoir dû sursoir à son activité régulière pour produire des documents pour la Cour, se présenter dans des interrogatoires, ainsi de suite. Et on sait que, il y a énormément de leviers qui existent pour nuire au travail des gens qui ont l'odieux d'être poursuivis, tout simplement parce qu'ils ont fait leur travail de citoyens avisés. Et il y a également les citoyens de Cantley que l'on sait, que l'on connaît, qui sont mobilisés par rapport à un dépotoir à partir de documents du ministère de l'Environnement lui-même. Mais il suffisait qu'on écrive dans les journaux qu'on était contre la présence du dépotoir pour qu'on reçoive la visite d'un huissier. Donc il y a très clairement, comme l'a dit le professeur de droit public Pierre Noreau, une par moment des cas de détournement des fins de l'institution judiciaire. Et ce que des auteurs d'un rapport présenté au ministre de la Justice il y a quelques années ont conclu, c'est que le juge dans notre constitution, notre juridiction, devait protéger sa propre institution contre les abus dont elle pouvait faire l'objet. Et donc, la loi anti-SLAPP est une façon de doter les juges de dispositions pour qu'ils puissent agir en conséquence.
Maintenant, on est dans une société de démocratie représentative, supposément, et puis on voit de plus en plus le problème de la censure être vraiment présent par rapport aux différents groupes militants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sous quelle forme se manifeste cette censure?
Ben, la censure, par définition, elle se censure elle-même. C'est son propre, un des ratés des régimes totalitaires européens des années 30, c'est d'avoir créé comme tel un bureau de censure avec des censeurs officiels, ainsi de suite. À ce moment-là, c'est déjà perdu pour le censeur, puisqu'il crée un intérêt pour tout ce qui est censuré. Alors l'idée, ça a été longtemps de censurer la censure, de faire en sorte qu'il y ait une censure sans qu'on puisse même le dire. Et la meilleure des autocensures, forcément, c'est l'autocensure. C'est parce que peu de gens vont se vanter de se censurer eux-mêmes, alors elle est très efficace et elle n'a pas à être nommée. Et la censure et l'autocensure, surtout, fonctionnent souvent sur la base de la peur. On craint pour sa carrière, on craint pour son salaire, on craint pour son emploi, on craint pour sa réputation. Donc on fait craindre un certain nombre de conséquences là auprès de ceux qui seraient amenés à se mobiliser publiquement par rapport à un enjeu de société environnementale, politique, diplomatique, ainsi de suite. Donc, évidemment, les poursuites de Bayon ont été très efficaces longtemps. Elles continuent de l'être. Je pense qu'on n'a pas idée dans notre société à quel point des journalistes, des professeurs, des recteurs et tous ceux qui ont un lien plus ou moins direct avec les leviers de la parole publique. Hein. Donc, à quel point ces processus-là sont efficaces, quoi. À quel point ces acteurs-là reçoivent des mises en demeure, à quel point ces acteurs-là sont soumis à une pression des militants au demeurant. Et donc, on se rend compte qu'on est confronté à un problème qui est celui de la réputation que défendent des acteurs très puissants, dont on peut se demander finalement qu'est-ce qui fait qu'ils sont réputés, quoi, qu'ils sont si bien réputés. Est-ce que c'est parce qu'il devient presque impossible de les critiquer que ces acteurs sont si réputés? Est-ce que c'est parce qu'ils accèdent à cette formidable technique qui est celle du marketing? Comment est-ce que se construit une réputation et comment se construit en fait cette idée voulant qu'on lui nuise, quoi, indûment du moment qu'on revient sur un certain nombre de pratiques qui sont effectivement pas de l'ordre de ce dont se vantent les acteurs concernés.
Justement, par rapport à ça, il y a d'un côté la censure, puis de l'autre côté une information sélectionnée qu'on passe à travers des médias de masse. Puis justement, ces compagnies-là, souvent dans leur stratégie de marketing, vont avoir accès à une source de diffusion d'informations assez large. Puis ça, comment ça va influencer justement les gens, les auteurs, les militants qui luttent pour dénoncer quelque chose qui va à l'encontre des intérêts de ces puissances-là?
Ah, la question est excellente, hein, d'autant plus que les médias aujourd'hui, les médias qui sont depuis longtemps des entités privées, doivent quand même séduire des annonceurs. Et si on séduit des annonceurs, c'est qu'on offre un produit. Un produit, c'est une sorte d'univers dans le domaine des médias. On vend aux annonceurs un univers qui va convenir non pas seulement à leur propre discours pour qu'ils s'agencent bien, mais à l'attitude qu'on souhaite avoir le lecteur quand il fréquente cet univers-là. Si on lit la presse, le journal de Montréal, si on regarde TVA, ainsi de suite, il convient qu'on soit dans un certain état d'esprit pour qu'on soit à même de recevoir les propositions des annonceurs. Alors forcément, on ne sera pas nécessairement tenté de faire des annonces, des lecteurs, des gens critiques de l'ensemble du système. on va bien sûr permettre une certaine critique relative, mais ce sera toujours une critique qui sera homéopathique et qui ne permettra pas des remises en cause de l'ordre établi. Au contraire, on va avoir tendance à reconduire au jour le jour les logiques permettant à l'ordre établi de perdurer. Et c'est à l'intérieur de ces univers médiatiques-là qui se passent, nos journalistes, comme on le voit avec le Journal de Montréal, et qui aujourd'hui est une plus l'affaire de maquettistes et d'agents de marketing, là, d'arriver à leur fin. Quoi. Donc on en est à ces logiques-là. Et cela contraint ceux qui ont un discours critique le plus souvent d'agir dans des marges. Mais ce sont des marges qui s'élargissent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point aujourd'hui, entre, disons, le discours des médias de masse qui est assez navrant, d'une part, et d'autre part, un discours scientifique subventionné, contrôlé par des pairs qui sont pris dans des logiques sociologiques de conformisme bien évidentes, là, entre les deux, tente à se développer, à s'élargir un créneau de pensée qui est justement le créneau des gens qui pensent, quoi, le créneau de ceux qui souhaitent avoir un discours qui n'est pas nécessairement sophistiqué, là, comme peut l'être parfois même jusqu'à l'obsession certaines pratiques scientifiques, et qui n'est pas pour autant abject comme trop souvent la proposition de ce dont tout le monde parle dans les médias, pour reprendre le titre d'une émission bien connue. Donc, en fait, c'est dans cet entre-deux, je veux dire, votre émission aujourd'hui à bâbord, bon, on peut peut-être jusqu'à inclure à certains égards Le Devoir dans ce créneau-là, là. On assiste à une volonté là d'entendre autre chose que ce que j'ai évoqué, et c'est en inscrivant des données, puis en s'inscrivant soi-même, puis en participant de cette activité médiatique-là qu'on peut faire bouger certains paramètres. Tout ça s'inscrit dans le temps long de l'histoire. Il faut être patient, mais en même temps très intense.
Les médias utilisent une manière de justifier, utilisent un mot pour justifier en fait la sélection qu'ils font par rapport au thème qu'ils utilisent, puis c'est celui de l'objectivité puis de la neutralité. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment ils utilisent ce terme-là pour justement écarter toute une partie de la critique qui est présente?
Je trouve que la remarque était juste il y a encore quelques années, mais je m'étonne aujourd'hui, à part peut-être pour Radio-Canada, hein, je m'étonne de voir aujourd'hui à quel point les médias se polarisent. Vous prenez le Journal de Montréal, par exemple, au Québec, c'est très clairement devenu une feuille idéologique. Une feuille idéologique qui pourfend l'État, qui présente l'État comme dépensant trop, qui vante l'industrie privée, qui milite pour la privatisation, et qui en même temps a une sorte de lecture du monde qui est moins objectivante que paranoïaque, d'une certaine façon, où on va nous montrer des malheurs s'accumuler sans qu'on puisse jamais comprendre ni la cause, ni l'organisation, ni la grammaire. Au fond, il n'y a pas ce qu'on appelle en philo une axiologie. Il n'y a rien qui organise la pensée de tout ça. C'est qu'on présente le monde comme étant un vaste désordre qui risque de nous emporter tout le temps, et ça crée de l'excitation à peu de frais, bien sûr, mais sans plus de conséquences pertinente pour le lecteur. Vous prenez la presse c'est un journal qui a pas une lecture tellement différente, mais il reste que sur le ton, on va beaucoup défendre l'expertise, on va défendre l'expert comme étant celui capable de ramener les brebis égarées dans le droit chemin d'un libéralisme même plus éclairé, mais au fond décomplexé, quoi, le libéralisme de ceux qui au fond auront toujours le dernier mot et le fin mot de l'histoire pour justifier que le monde aille à peu près là où il doit aller, avec parfois quelques bémols, parce qu'il faut quand même bien avoir l'air critique. Mais il y a de plus en plus une affirmation, je trouve, des discours idéologiques propres aux médias. Le Devoir finit par se positionner, lui, contre Harper, c'est assez clair, une ligne à la fois nationaleuse québécoise et anti-Harper. De ce dernier aspect étant le plus intéressant, là. Donc il y a quelque chose de clair aussi. Ce qui m'étonne un peu plus, c'est le temps que prend le lectorat pour s'en rendre compte, quoi. C'est comme si le lectorat en était encore à se dire qu'on lui servait en toute objectivité de l'information, alors que alors que les journaux se polarisent. Dans d'autres cultures, on voit les journaux comme des étendards. On dirait en France, quelqu'un qui va lire le Figaro, en Allemagne, un lecteur de la Frankfurter Allgemeine saura, en fait, qu'il lit un journal de droite et le revendiquera, alors qu'ici, j'ai rarement vu des gens dire « je suis de droite et je lis la presse », alors que ce serait tout à fait dans l'ordre des choses que de le dire et éventuellement d'en être fier là, pour les intéresser.
Justement, par rapport à la couverture médiatique qu'il y a eu, par rapport à plus précisément au baïonnage auquel vous avez face, est-ce que ça a été fort ou ça a été plutôt marginalisé?
Je dirais que le débat a évolué d'une manière générale, pas seulement dans les médias, mais on sent qu'il y a que ce qui était au départ de la perplexité se transforme depuis plusieurs mois en un soutien de plus en plus clair de la part de déjà de ceux qui nous suivent. Il y a comme une conviction qu'il y a quelque chose de légitime à faire paraître un livre tel que le nôtre, d'une part. Et d'autre part, les médias ont fini par reconnaître la pertinence du débat, je dirais, notamment en ce qui concerne Radio-Canada et Le Devoir. Hein, Le Devoir ayant été le journal le plus à l'affût de notre affaire. Timidement, par des voix indirectes, parfois on a eu des mentions dans les autres médias, mais ça a été assez timide. Il reste que c'est une histoire, celle du rôle du Canada en Afrique et de la liberté d'expression via les livres, qui pourra dans notre société être présentée comme marginale. Là où il y a beaucoup d'espoir en ce qui concerne notre affaire, c'est qu'elle est emblématique d'une situation générale qui est celle des acteurs engagés dans notre vie publique. Puis il suffit d'une minorité dans une civilisation qui s'engage pour que déjà les choses avancent, quoi. C'est jamais les majorités qui subitement, spontanément se lèvent et tendent à arriver après coup, quoi, dans l'histoire.
Alors, en terminant, est-ce que vous pouvez nous rappeler où et quand va se passer l'événement de demain matin?
Oui, mais en fait, l'éco-société, les auteurs de Noir Canada invitent ceux qui s'intéressent à la cause qui est devenue la nôtre depuis 2008 à nous rejoindre devant le palais de justice de Montréal à 11h demain. C'est à l'angle des rues, c'est à Saint-Antoine et Saint-Laurent, si je ne m'abuse, devant le palais de justice.
Donc, à 11h, à l'angle Saint-Antoine-Saint-Laurent, rendez-vous pour soutenir, en fait, le projet de loi anti-braillon qui se passe en ce moment. Alors, on est avec Alain Deneau, auteur de Noir Canada, et vous êtes à Radio Centre-Ville 102.3 FM. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup.